Un avant-projet de loi du pays pour renforcer le système de santé et de protection sociale. Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement, notamment pour faire face à la pénurie de soignants. Une charte signée entre les bars, restaurants et boîtes de nuit, la province sud, la ville de Nouméa et le Haut-Commissariat pour lutter contre la consommation excessive d'alcool. Un conseil calédonien de la vie lycéenne, ou comment impliquer les jeunes pour qu'ils portent des projets au sein de leur établissement scolaire. Des élèves venus de tout le territoire étaient réunis aujourd'hui au Mont d'Or. Avis aux gourmands, c'est demain l'ouverture du salon Saveurs et Traditions. Il se durera durant 4 jours à la Maison des Artisans. Dans le Pacifique, l'OMS alerte sur la recrudescence des cas de dengue. La maladie a déjà coûté la vie à 9 personnes chez nos voisins. En cyclisme sur piste, un hommage prévu vendredi soir à Jean-Claude Lecourieux, disparu l'année dernière. Le spectacle sera au rendez-vous au Vélodrome de Magenta. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. De nouvelles mesures en préparation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour renforcer notre système de santé et de protection sociale et à court terme pour faire face au manque de personnel soignant. L'exécutif a adopté aujourd'hui un avant-projet de loi de pays qui décline de nombreuses mesures sur trois axes distincts, l'offre de soins, la gouvernance et le modèle économique de la santé. En Nouvelle-Calédonie, Claude Gambet est le membre du gouvernement en charge de la santé.
On vise plusieurs axes. Il y a le sujet de l'offre de soins. Il faut absolument stabiliser, sécuriser notre offre de soins. L'autre axe, c'est également le sujet de la gouvernance, travers la santé numérique. Et enfin, le dernier axe, c'est le modèle économique. Cet avant-projet de loi de pays va nourrir ces trois axes-là. On essaie de soulager au mieux le système de l'offre de soins. Et puis, il s'agit également de sécuriser le stock de la pharmacie, puisque c'est quelque chose qu'on a remarqué pendant la période Covid, mais aussi pendant les émeutes. On est très vulnérables sur le plan de l'alimentation en produits pharmaceutiques. Là, il s'agit de les obliger à constituer un stock de pharmacie afin de pouvoir faire face à certains aléas. Toujours pour le sujet de gouvernance, il y a également le sujet de la santé numérique. La finalité de la santé numérique, c'est de mettre en place un dossier médical partagé. Donc, on commence par là où il faut commencer, c'est de sécuriser les données.
Et déjà des mesures à court terme pour faire face au manque de soignants. Certains corps de métier de la santé pourraient effectuer différentes prestations, comme nous l'explique Marie-Laure Mestre, la directrice de la DAS.
La pénurie de soignants et puis surtout l'évolution des pratiques professionnelles avec des professionnels de mieux en mieux formés, on leur permet d'avoir de nouveaux actes. C'est le cas pour les sages-femmes qui vont pouvoir prescrire tant dans leur prise en charge de la maman initialement, mais de l'enfant et puis du conjoint pour certaines pathologies, que les infirmiers qui voient leurs compétences aussi élargies pour répondre à des besoins de population ou à des organisations territoriales. Les pharmaciens qui sont au cœur aussi d'un dispositif, et on l'a bien vu, vous pouvez avoir besoin d'un renouvellement d'ordonnance et ils pourront le faire de manière simplifiée demain. Les médecins libéraux aussi, avec des sujets concernant l'activité de médecins associés pour leur faciliter la vie. Et puis le tiers payant pour les usagers, encore une fois, qu'ils puissent se rendre de façon plus simple, sans avance de frais, pour procéder à des examens de biologie médicale ou de radiologie.
La Calédonie reste attractive pour des étudiants en métropole et des soignants à l'extérieur du territoire à condition d'envoyer des signaux positifs, selon Claude Gambet. Concernant la cartographie de l'offre de soins, les travaux sont ainsi lancés, encore une fois dans un contexte de manque de soignants et d'inégalité d'accès aux soins. Le membre du gouvernement a notamment eu l'occasion de s'en expliquer avec des coutumiers du Nord pour faire face à la pénurie immédiate.
Je leur ai demandé de changer de paradigme, changer de manière de penser. Ils sont les premiers gardiens de leur santé. Il ne faut pas imaginer qu'un jour on aura un médecin par tribu ou un médecin. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est très important d'anticiper les problématiques, de former les gens au premier secours. Ici on équipe une commune d'un ambulancier et puis éventuellement d'un infirmier en pratique avancée. On peut s'en sortir. Quand même, il y a une réalité qui est intangible, c'est que la grosse majorité des populations, ils sont dans le sud. Ce n'est pas la peine d'imaginer qu'on aura le même nombre de soignants dans le nord et dans les îles. C'est mathématique comme raisonnement. Quand on est dans ces situations-là, quand on fait comme au Kerguelen, on anticipe et puis on se forme au premier secours, on développe la télémédecine, etc. etc. Voilà. Donc il faut changer de paradigme. petit gars, il n'y a jamais eu de médecin. Pourtant, il y a des âmes qui vivent. Et comment on a fait? Eh ben, on a mis un infirmier, on a développé la télémédecine, et puis il a son petit stock de pharmacie, puis on se débrouille comme ça. On s'adapte, on est résilient.
Et l'avant-projet de loi du pays prévoit également de renforcer le contrôle médical pour un usage plus juste des prestations sociales et notamment de lutter contre les abus. Il vise encore à assouplir les règles d'exercice pour renforcer l'attractivité du territoire. Le gouvernement a également adopté aujourd'hui un avant-projet de loi du pays concernant la modernisation de la publicité foncière pour mieux préserver la qualité du service et garantir la sécurité des transactions immobilières en réadaptant notamment le cadre juridique. Enfin, l'exécutif a examiné, après avis du Conseil d'État, le projet de loi du pays qui vise d'une part à améliorer les dispositifs d'échanges automatiques d'informations et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et d'autre part à moderniser le contrôle de l'impôt. L'objectif principal est de se conformer aux exigences internationales et ainsi préserver l'attractivité économique du territoire. Nouvel épisode dans l'affaire de l'inéligibilité de Philippe Gomez et de Philippe Michel. Les deux élus de Calédonie Ensemble bénéficient d'un sursis dans l'attente d'un jugement au fond par le Conseil d'État, Elisabeth Noir.
Et à ce stade, Philippe Gomez et Philippe Michel conservent leur mandat de conseiller du Congrès et de l'Assemblée de la province Sud. Dans son ordonnance en date du 22 juillet, le juge des référés du Conseil d'État suspend en effet l'exécution de l'arrêté du haut-commissaire qui déclarait Philippe Gomez et Philippe Michel démissionnaires d'office de leur mandat. Le juge des référés a considéré que le recours au fond qui a été formé par les deux élus de Calédonie Ensemble a pour effet de suspendre cette démission d'office. On rappelle que Philippe Gomez et Philippe Michel ont été condamnés le 2 juillet à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire des emplois fictifs, mais ils restent donc élus dans l'attente d'un jugement sur le fond de la part du Conseil d'État. Ils ont aussi été condamnés à des peines de prison et de fortes amendes, mais ces dispositions ne s'appliquent pas non plus pour le moment, puisqu'ils ont fait appel du jugement, et on peut penser que le cas échéant, ils iront en cassation. Dans un communiqué, Calédonie Ensemble affiche sa plus grande sérénité. Il est clair que les deux élus vont épuiser tous les moyens de droit et poursuivre la bataille juridique jusqu'au bout pour tenter d'échapper à la condamnation et notamment à la peine d'inéligibilité qui signerait le glas de leur carrière politique.
Au chapitre politique, c'est l'effervescence dans le camp indépendantiste où l'accord signé à Bougival est au cœur de toutes les réflexions. Après la réunion de la commission exécutive de l'Union calédonienne lundi et la réunion hier dans la plus grande discrétion du bureau politique du FLNKS, plusieurs instances sont convoquées ce week-end. Le comité directeur de l'UC se réunira samedi à la tribu de Gatop à Vaud. Le même jour, le RDO tiendra son comité directeur à Kaimolo à Dimbéa et l'UPM réunira un comité central extraordinaire à la tribu de Nédivin à Wailou. De son côté, la CCAT doit tenir une assemblée générale dimanche au Mont d'Or. Le FLNKS, enfin, se réunira en congrès ou en convention le 2 août à Bouraï. Toutes ces instances devront se prononcer sur la suite à donner à l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui a été signé le 12 juillet à Bougival par l'ensemble des groupes politiques calédoniens et par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino. C'est le sang.
Un accident de la circulation très tôt ce matin à Boulou-Paris. Un jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de terminer sa course dans une station-service à l'entrée sud de la commune. Plusieurs témoins ont d'abord cru à une nouvelle attaque à la voiture Bélier, mais les gendarmes ont expliqué qu'il s'agissait bien d'un accident et que le jeune homme était alcoolisé au moment des faits. Organiser la lutte contre la consommation excessive d'alcool et ses effets, c'est l'objectif de la charte de la vie nocturne signée cet après-midi par le haut-commissaire, la présidente de la province sud et le maire de Nouméa, mais aussi par le président de l'association des restaurateurs, bars et discothèques, Jean-François Baudin.
Chacun des signataires est conscient que la lutte contre la consommation excessive d'alcool n'est pas de la seule responsabilité des établissements dits de nuit. Cette charte n'est donc qu'une première réponse, mais elle permet de poser une première pierre, car la surconsommation d'alcool est un fléau en Calédonie, a rappelé le haut-commissaire. Commissaire Jacques Billon.
C'est une réalité très prégnante en Nouvelle-Calédonie puisque l'alcool est aujourd'hui présent dans environ 80% des faits de délinquance qui sont commis en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde a bien sûr à l'esprit les faits d'insécurité routière. Sur les 20 personnes qui sont décédées sur les routes calédoniennes, 2/3 l'ont été malheureusement à cause d'une consommation excessive d'alcool. C'est une réalité qui rejoint aussi celle des violences intrafamiliales. Il fallait sonner la mobilisation générale. Cette première réponse, elle se fait avec les débits de boissons qui ont décidé effectivement de signer cette charte pour réguler la consommation d'alcool dans l'établissement et aux abords de l'établissement en question.
Les établissements signataires de cette charte s'engagent sur quatre points. D'abord, lutter contre la consommation abusive et préserver la sécurité routière. Il s'agit entre autres, par exemple, d'interdire l'accès à leur établissement à toute personne manifestement ivre, à refuser de servir de l'alcool à des mineurs ou encore à ne pas vendre d'alcool à crédit. Cette charte engage aussi les débits de boissons signataires à préserver l'ordre public et la sécurité, à promouvoir la santé publique et lutter contre les trafics et consommations de stupéfiants, et enfin à lutter contre le bruit. Une charte signée par la présidente de la province sud, Sonia Baquès, mais aussi par le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
C'est une charte qu'on veut partenariale, qui engage les débits de boissons, de façon à essayer de vendre de l'alcool de manière raisonnable. Et essayer d'empêcher à la fois de vendre de l'alcool à des mineurs, vendre de l'alcool à des gens qui sont complètement avinés. Donc c'est un engagement. L'alcool est un fléau dans le pays, il n'est pas que sur les débits de boissons, chacun le sait. Mais en tout cas, c'est une première étape vers autre chose, où il va falloir trouver des solutions pour justement faire en sorte que les gens boivent moins.
Mais rappelons que c'est la province sud qui est responsable du règlement en adoptant par exemple le code des débits de boissons, mais c'est la mairie qui délivre les autorisations et fixe les horaires d'ouverture. Le quatrième signataire de la charte est le président du syndicat des restaurateurs, bars et discothèques, Jean-Pierre Cuenet.
Pour nous, c'est important de montrer l'exemple. Bon, je pense que ce n'est pas la première charte qu'on signe. On va dans ce sens-là parce que c'est nécessaire. Après, oui, il faut, mais on n'est pas les seuls responsables des problèmes de l'alcool ici sur le territoire, quoi. Je pense que vraiment la plupart des restaurateurs boîtes de nuit sont conscients puisque on est quelque part souvent des fois les premières victimes avec les gens qui abusent, quoi.
Cette charte n'a pas de caractère contraignant, mais elle constitue un engagement et ce n'est qu'une première pierre, a souligné le haut-commissaire.
C'est une pierre de l'édifice que nous nous attachons à construire au nom de l'intérêt général. Nous n'attendons pas d'avoir posé toutes les pierres. Nous les faisons une à une avec ce premier engagement, qui est un engagement plus que symbolique, puisque c'est une réalité qui va prendre corps dans les jours qui viennent, avec une présence concrète des forces de sécurité autour des établissements signataires de la charte en question. Et nous allons, sur cette lancée, travailler avec les distributeurs, je dirais, de boissons, les commerçants, parce qu'il faut engager tout le monde dans cette lutte contre l'alcoolisation excessive de la société calédonienne.
La signature de cette charte s'est déroulée également en présence du directeur de la police municipale de Nouméa et de la directrice territoriale de la police nationale. Ils ont rappelé que chaque année, 5000 personnes étaient placées en cellule de dégrisement pour ivresse publique et manifeste.
La grève est suspendue au collège de Canala. Les cours ont repris ce matin après une journée de fermeture. Le personnel enseignant réagissait à l'agression d'un de leurs collègues. Lundi après-midi, un professeur aurait surpris un élève de 4e en train de vapoter en classe avant de recevoir un coup de poing. Le personnel a déjà rencontré les représentants coutumiers. Il attend maintenant la visite du vice-recteur Didier Vindatich. Il doit s'y rendre mardi prochain. Pour lui, le plus important est avant tout de rester solidaire.
C'est un établissement que je connais parce que je m'y suis déjà rendu une première fois, mais là j'y vais vraiment, je dirais, plus solennellement pour pouvoir rencontrer à nouveau tout le monde, hein, l'équipe de direction, les professeurs, les familles, les élèves, les coutumiers, pour qu'on se montre bien solidaire. Il y a certainement une vigilance qu'on a d'ailleurs, hein, à l'égard de l'ensemble de nos établissements, mais il est vrai qu'à Canala, la situation était plus aiguë en quelque sorte, probablement parce qu'on a créé des classes, parce qu'il y a eu une migration d'élèves à l'issue des événements de l'ouest vers la côte est, en particulier vers Canala. Et donc c'est un collège qui a grossi en effectif et donc qui peut être effectivement confronté à des sujets nouveaux et à des problèmes qu'il n'avait pas à régler par le passé. Donc on va faire un état des lieux et puis trouver des solutions pour que les élèves puissent continuer à étudier correctement.
J'ajoute qu'après les faits survenus lundi, une enquête est en cours. L'élève sera convoqué en conseil de discipline. Justice, 8 mois à 3 ans de prison pour le trafic de cocaïne à l'île des Pins. L'année dernière, un pêcheur avait retrouvé des ballots de drogue largués à la mer. Il a décidé d'organiser un trafic entre l'île des Pins et le Grand Nouméa, Jean-François Baudin.
Une audience exceptionnelle était organisée hier pour un procès hors norme. Le délibéré est d'ailleurs tombé hier soir vers 22h. Le tribunal a condamné les 11 protagonistes à des peines allant de 8 mois à 3 ans de prison, alors que le ministère public avait requis des peines de 8 mois à 6 ans. La drogue dite de l'île des Pins avait inondé le marché nouméen car elle était vendue 2 à 3 fois moins cher que le prix du marché sur le territoire. Preuve de l'amateurisme des prévenus, ce qui explique que les peines ont été plus clémentes que les réquisitions, selon maître Barbara Brunard, l'avocate de 2 des plaignants.
C'est vrai qu'on a eu des réquisitions qui ont été extrêmement lourdes, qui allaient jusqu'à 6 années d'emprisonnement, qui avaient été requises par le ministère public. Et ce sont des réquisitions qui, pour nous, les avocats de la défense, ne correspondaient pas du tout, ni aux personnalités des prévenus qui étaient à la barre, ni aux faits qui pouvaient leur être reprochés. On a affaire à des personnes qui finalement se sont lancées dans ce trafic de stupéfiants par opportunité, parce que les produits sont arrivés par la mer, comme vous le savez. Vous savez, sur l'île des Pins, c'est la première fois que des produits de nature cocaïne arrivent. Il n'y a jamais eu de circulation de drogue dure sur l'île des Pins. Et c'est vrai que on s'est retrouvé avec des personnes qui ont un petit peu voulu tirer profit de tout ça. Ils ont expliqué qu'ils étaient à ce moment-là dans une situation économique très difficile. L'économie de l'île des Pins est pour l'instant au plus bas. Et donc, ils ont voulu essayer de récupérer un petit peu d'argent en vendant ces produits, mais sans véritablement connaître les pratiques du marché, les tarifs du marché.
Ces pêcheurs auraient découvert la drogue en 2 temps pour 50 kilos en tout. Tous les biens acquis grâce à ce trafic ou qui ont servi à celui-ci, dont une voiture et un bateau, ont été saisis.
Un mineur de 17 ans déféré au parquet pour vol avec arme. Les faits remontent au 5 février dernier à Dimbéa. Le visage dissimulé, il avait menacé la caissière avec un pistolet pour se faire remettre une cartouche de cigarette. L'enquête n'avait pas permis d'identifier l'individu jusqu'au 18 juin dernier, lorsque la caissière l'a reconnu dans un autre commerce de Nouméa. Il a avoué qu'il était bien l'auteur du vol et le revolver s'est avéré être une arme en plastique. Le juge des enfants a demandé son placement sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu en septembre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 95% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les exactions, les violences urbaines et les incendies qui se multiplient ces dernières semaines sont des actes de délinquance politique. Ils ne sont que 5% à penser que ce n'est pas le cas. Notre question du jour, au lendemain du forum qui s'est réuni à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie est suffisamment préparée au changement climatique? Si vous pensez qu'elle l'est suffisamment préparée, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle ne l'est pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Bien alerté, bien protégé, c'est la philosophie du dispositif FR Alert. Il va être déployé sur le territoire par l'État et à la disposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. FR Alert a été mis en place en métropole par la sécurité civile avant les Jeux Olympiques. Toutes les personnes possédant un téléphone portable recevront une alerte en cas de danger. Anaïs Saïd-Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire.
Les dangers, c'est quoi? Ce sont des catastrophes naturelles, inondations, cyclones. Ça peut être aussi des incidents industriels ou des événements en matière de sécurité et ordre public, des attaques terroristes. Ce dispositif permet d'envoyer un message avec des consignes à donner sur une zone géographique définie. Vous recevez ce message sur votre portable, que vous ayez du réseau ou pas, que vous ayez un portable étranger ou local, quel que soit votre opérateur, vous recevrez ce message. Et ce n'est pas un texto, c'est vraiment un message qui s'affiche sur votre écran avec FR Alert et les consignes à donner. Quand vous recevez ce message-là, vous n'avez pas la sonnerie de votre texto habituel, vous recevrez ce son un peu strident qui est volontaire afin que vraiment vous puissiez lire le message. Et le message reste affiché un certain nombre de temps avec les consignes. L'idée, c'est de en fait renforcer notre dispositif d'alerte à la population. Tout le monde connaît les sirènes. Là, ça vient ajouter des éléments avec des consignes à donner.
Un test sera effectué demain à Lifou et un autre sera fait à l'échelle du territoire d'ici la fin de l'année. Cette technologie ne nécessite pas d'installer une application sur votre téléphone portable et fonctionne même lorsque vous n'avez pas de réseau. Le Haut-Commissariat lance une nouvelle alerte contre les SMS frauduleux. Il appelle à la plus grande vigilance concernant des SMS illicites qui sont envoyés au nom de la Direction des Finances Publiques et qui demandent le règlement d'une contravention impayée. Il s'agit d'une campagne de SMS frauduleux avec usurpation d'identité de la DFIP. Une nouvelle vague de SMS a été envoyée ce matin. Soyez donc très prudents. Ne cliquez pas sur ce type de SMS si vous en recevez un et ne payez jamais une amende sans vérifier l'adresse officielle de l'expéditeur. À 18h, passé de 4 minutes, une pause publicitaire dans ce journal et on vous emmènera au Mont d'Or où des lycéens de toute la Calédonie étaient réunis aujourd'hui pour chercher des pistes afin d'améliorer les conditions de travail dans leur établissement. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Gonnet. Visitez notre page Facebook.
Info Soir, Michael Juneski.
Une plateforme d'expression et de réflexion pour améliorer la vie des lycéens dans leur établissement. C'est l'objectif du Conseil calédonien de la vie lycéenne qui était porté par le gouvernement. Il s'est tenu aujourd'hui au lycée du Mont d'Or. Il a réuni 33 jeunes venant des trois provinces, Charlotte Coulson.
Ils se sont tous portés volontaires au sein de leur établissement et puis se sont fait élire sur la base du projet qu'ils souhaitaient défendre. Sophie Seydi et Minagé Balouch sont toutes les deux élèves en terminale au lycée La Pérouse. Elles ont présenté un projet fondé sur le bien-être à l'école.
Nous, on a choisi de se concentrer sur cinq grands axes avec le cyberharcèlement, l'harcèlement, la sécurité aux abords du lycée, etc. Donc oui, c'est le bien-être. Ça nous intéresse de soumettre nos avis par rapport au bien-être général pour l'ensemble des lycées de Nouvelle-Calédonie. C'est un beau projet.
Personnellement, j'ai fait une année de plus à cause des problèmes de santé que pouvait m'apporter le lycée. Donc du coup, j'aimerais que ça ne se reproduise pour personne et que tout le monde puisse se sentir bien et ait envie d'aller à l'école. Donc mettre en place tous ces projets pour une meilleure adaptation pour tout le monde. Effectivement, c'est de demande, on veut quand même que certaines choses soient réalisées. Par exemple, on a parlé d'aide aux devoirs, on parle de formation pour les professeurs pour qu'ils soient plus à l'écoute, en fait, qu'ils aient conscience que pour tout le monde, c'est pas facile d'être très scolaire.
Eux, chacun leurs compétences, ils pourront répondre à des questions spécifiques et on sait que le bien-être, c'est étroitement relié à la réussite des élèves à l'école, au collège, etc. Donc oui.
D'autres thématiques ont été abordées par les lycéens, telles que l'addiction, le retour sur l'expérience scolaire ou encore l'ouverture des internats. Tous ont porté leur discours devant une salle remplie cet après-midi. Au premier rang, le vice-recteur, des représentants de la province sud, des maires ou encore de la police nationale ou même de la gendarmerie. Et puis Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, qui a écouté avec attention les projets des élèves.
Alors il y a certains projets sur lesquels on va pouvoir les informer, ça c'est important parce que certaines choses qui sont proposées sont déjà en cours par ailleurs, donc qu'ils puissent aussi bénéficier de cette réflexion. Et sur d'autres sujets, nous on va le travailler avec nos directions, on va, je pense, être obligé aussi de sélectionner un certain nombre de sujets. Je parlais par exemple de l'ouverture des internats, mais ça c'est un sujet type où il faut faire une étude pour voir quels moyens on doit mettre en œuvre, si des activités sont possibles et si vraiment ce projet peut arriver à terme. Donc c'est vraiment un organe qui nous permet de récolter leur expression et de voir quel projet ils souhaitent mettre en place. Et pour finir, on invite aussi des experts. Il y a des personnes, par exemple, de la gendarmerie, de la police nationale ou qui viennent sur d'autres sujets qui vont pouvoir également répondre à leurs questions.
À noter que seuls les lycées publics participent à cette consultation.
Une opportunité de se forger une expérience à l'international pour des missions de solidarité allant de 8 à 18 mois. Le programme France Volontaire ouvre dès à présent une campagne de recrutement pour plusieurs postes à pourvoir au Vanuatu, à Fidji ou encore au Cambodge. Les explications de Marjorie Botella, responsable de l'antenne France Volontaire en Nouvelle-Calédonie.
France Volontaire, donc, c'est une plateforme de volontariat international de Nouvelle-Calédonie. On interagit beaucoup avec le Pacifique, l'Asie Pacifique de manière globale. Sur cette campagne qui vient de s'ouvrir, on a plusieurs pays d'affectation. On a le Vanuatu, une mission qui aura lieu à Fidji et une autre qui aura lieu au Cambodge. Sur chaque mission, finalement, les profils sont un peu différents. Un projet qui est quand même mis en place, le projet Résilico, qui vise du coup à renforcer la résilience des communautés rurales, en fait, en Nouvelle-Calédonie et à la fois au Vanuatu. On porte plusieurs missions qui auront lieu au Vanuatu. Une mission qui est plutôt chargée d'études sur les centres sociaux, une autre qui est plutôt sur l'appui agricole, et une autre mission qui est plutôt sur l'agronomie. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 août. Et à partir de là, on triera les profils et on sélectionnera nos candidats.
Et pour candidater, toutes les informations sont disponibles notamment sur la page Facebook France Volontaire Pacifique. La plus belle des destinations, c'est la nôtre. C'est l'un des slogans du Salon du Tourisme qui aura lieu samedi prochain au Parc Brunelet à Nouméa. Organisé par Sud Tourisme, il regroupera 80 prestataires touristiques de la province sud. Nous en parlerons demain matin avec Eugénie Kerlo, responsable attractivité, communication et marketing à Sud Tourisme. Elle sera notre invitée demain matin à 7h30. L'occasion également de dresser un état des lieux du tourisme en province sud. Autre rendez-vous d'antenne, le directeur général du réseau des EGC, les écoles de gestion et de commerce, est actuellement sur le territoire. soir, David Barthes sera l'un des invités des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu demain midi. Nous parlerons de l'EGC en Calédonie. La formation qu'elle dispense répond-elle aux besoins des entreprises? Quel est le taux d'insertion des étudiants diplômés? Jean-François Baudin recevra également David Leclerc, le responsable des écoles de la CCI, et Shelly Itrema, étudiante en première année à l'EGC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Saveurs et traditions, c'est le thème du salon proposé à partir de demain à la Maison des Artisans. Pendant 4 jours, plus d'une cinquantaine de professionnels vous attendent pour ce rendez-vous avec des dégustations et des animations. Elisabeth Rivière est la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat.
On va faire découvrir aux Calédoniens toute la transformation alimentaire qui est réalisée par l'ensemble des artisans. Et donc, on permettra donc à l'ensemble des visiteurs de venir découvrir les produits, de les acheter et surtout de se faire plaisir, de faire plaisir à son palais pour venir voir toute cette richesse que nos artisans fabriquent au quotidien. Alors, il y aura une inauguration à partir de 10h30 où nous mettrons bien sûr en valeur l'ensemble de nos artisans, mais aussi leurs produits. Nous essaierons de faire une petite dégustation aussi juste après cette inauguration.
Le salon Saveurs et Traditions qui s'ouvre demain à la Maison des Artisans, l'entrée sera gratuite. L'actualité dans le Pacifique et l'Organisation mondiale de la santé qui vient de renouveler ses appels à la vigilance. L'OMS alerte sur la recrudescence des cas de dengue dans la région. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'OMS a indiqué que les cas suspects de dengue viennent de s'élever à 18 766 dans la région et que ce bilan est le plus lourd à avoir été enregistré en 10 ans. Une analyse des données les plus récentes démontre l'existence de 13 702 cas suspects aux îles Fidji, 2087 au Tonga et près de 1100 en Polynésie française. Au 13 juillet, le nombre des cas de dengue confirmés en laboratoire s'élevait aussi à 1276 au Samoa, où la mort de 2 enfants est également à déplorer. Au total, 9 décès directement liés à la maladie ont déjà été signalés dans la région. L'OMS a donc renouvelé ses appels à la vigilance et a recommandé la multiplication des opérations de pulvérisation d'insecticides, l'élimination des points d'eau stagnantes, la destruction des gîtes à moustiques vecteurs de la maladie et l'usage à titre personnel de produits répulsifs. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h passé de 13 minutes. Après la pub, nous verrons toute l'actualité sportive et notamment cette soirée de cyclisme sur piste en hommage à Jean-Claude Lecourieux prévue vendredi. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La foire de Bourail est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bourail. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Il est 18h30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 18h13, la fin de votre journal, le sport avec Mickaël Juneski.
Et tout d'abord, cette bonne nouvelle pour l'athlétisme calédonien. Aurore Manoufekai vient d'être sélectionnée en équipe de France pour participer au championnat d'Europe des moins de 20 ans. La lanceuse de poids, championne de France moins de 20 ans le week-end dernier à Saint-Etienne, portera donc la tenue tricolore en Finlande. Ce sera du 7 au 10 août prochain. Du football et la sélection calédonienne féminine des moins de 16 ans qui s'est envolée pour les Fidji, puis les Samoa. Un stage de 5 jours est prévu aux Fidji avant de participer à un tournoi à moins de 16 ans organisé par l'OFC à Apia, la capitale des Samoa. Elles affronteront la sélection locale le 1er août, puis Tahiti le 4 août et enfin les Fidji le 7 août. sur le territoire du cyclisme sur piste. Une soirée en mémoire à Jean-Claude Lecourieux est prévue vendredi. Jean-Claude Lecourieux est décédé en décembre 2023. Il était un coureur sur route, vainqueur du Tour de Calédonie en 1984. Il a également été à deux reprises champion de France de demi-fond en cyclisme sur piste. Je vous propose d'écouter Gérard Salin, organisateur de cette soirée.
Jean-Claude Lecourieux, qui a été un grand coureur sur route, avec un vainqueur du Tour de Calédonie, et puis un très beau pistard aussi, parce qu'il a été plusieurs fois champion, mais champion de France de demi-fond, deux fois, 82 et 83, si je ne me trompe pas. Il est parti l'an dernier, et je crois que, vu avec sa famille, ils sont très contents qu'il y ait une soirée en son honneur, et voilà, on va faire une belle soirée. Donc il y aura des courses, des tournois sprint pour les plus jeunes, et les grands auront des courses de 200 mètres de la vitesse de Kirin. Et puis surtout, une course de demi-fond, justement, où en mémoire de Jean-Claude Lecourieux qui a brillé, il y aura deux courses de demi-fond sur deux catégories. Donc voilà, ça va être une belle soirée et j'invite le public à venir nombreux.
Et le spectacle sera en rendez-vous donc vendredi au Vélodrome de Magenta à partir de 18h30. Il est 18h passé de 15 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo 7 avec vous, Pierre, bonsoir.
Bonsoir Mickaël. La nuit prochaine, le ciel s'annonce bien étoilé sur la façade ouest. Ailleurs, les passages nuageux deviendront plus fréquents, accompagnés de faibles averses. Celles-ci pourraient localement gagner en intensité sur les régions de l'est en toute fin de nuit. Le vent, d'abord orienté à l'est, mollira progressivement pour souffler autour de 15 nœuds, et en fin de nuit, il deviendra variable et faible sur la côte ouest. Les températures minimales afficheront une légère hausse, comprise entre 19 et 21 degrés sur le littoral, et pourront descendre jusqu'à 13 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, l'ouest profitera d'un temps sec et bien ensoleillé. Sur les autres régions, le ciel restera partagé entre belles éclaircies et passages nuageux, parfois accompagnés d'averses. Le vent d'est se maintiendra autour de 15 nœuds, avec des pointes localisées pouvant atteindre 20 nœuds, notamment sur l'extrême sud et les îles Loyauté. La côte ouest, quant à elle, restera souvent abritée.